Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour cette nouvelle année 2025 où on est ravis de vous retrouver, même si ma foi, tout augmente et qu'on n'est pas payé plus.
Non seulement ça, mais 2025, j'arrive pas à y croire. Moi, quand j'avais,
tu te rends compte.
Quand j'avais 15-16 ans, je me disais l'an 2000, je serais un vieux crouton. Et je suis arrivé en 2025, je suis un très vieux crouton, mais c'est surprenant 2025.
Et puis on avait tous cette idée, nourrie par Barjavel, qu'on vivrait dans des appartements qui sembleraient à des sortes de bulles, de troglodytes, qu'on aurait des combinaisons spatiales, oui. Notre vaisseau attelé dans l'appartement, on ouvrirait des robinets, la nourriture serait livrée.
Il y aurait des robots partout.
Voilà, bon, rien du tout.
rien du tout.
Enfin voilà, en attendant... Comme c'est le début de l'année et que c'est le moment de regarder un petit peu en arrière, de faire une rétrospective, j'aimerais qu'on prenne le temps, en ce début d'année, de faire une capsule un petit peu plus marché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés et qu'est-ce qui pourrait se passer en fonction de ce qui est l'état de fait aujourd'hui.
Et aussi, quelque chose d'important, c'est qu'est-ce qui était attendu dans les marchés,
voilà.
Qu'est-ce qui était, et qu'est-ce qui nous a surpris, parce que voilà. Les marchés...
Qu'est-ce qui a pu nous décevoir en bien ou pas.
Ou pas, voilà.
Alors, parmi ces grandes tendances lourdes, on va vous parler des crypto-monnaies, on va vous parler des obligations d'État, spécialement chinoises, pour dire que Charles avait raison, mais ça, tout le monde le savait. On va vous parler de la sous-performance d'un certain marché américain tiré par les Magnificent Seven et se poser la question de savoir est-ce que ça va demeurer.
Pourquoi on a cette performance?
Pourquoi on a cette performance?
Les gens l'expliquent par l'existence de ces 7 valeurs, mais il y a d'autres façons de l'expliquer.
On va revenir sur ça et on va parler de l'or, bien évidemment, à la fin, parce que l'or, et on va voir pourquoi. Et s'il nous reste un peu de temps, je vous parlerai de ce livre que j'ai recensé, Nouvelle leçon d'histoire économique, dette, inflation, transition énergétique, travail de Jean-Marc Daniel. Que j'ai lu et recensé, mais comme malgré tout le sujet est un peu grand, lourd aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, donc on va voir.
Mais de toute façon, on aime bien les livres de Jean-Marc Daniel parce qu'ils sont savants, ils sont érudits et il est honnête intellectuellement, ce qui n'est pas le cas des autres économistes en France en général. Donc...
Et au pire du pire, de toute façon, si vous ne comprenez pas la partie économique, la partie historique est linéaire, enfin je veux dire c'est historique, on vous raconte des petites histoires, la faillite des deux tiers, de sorte que la chose est amusante.
C'est un bon bouquin de culture générale, voilà.
Voilà. Et en plus, ça peut le lire par petits chapitres, parce que comme il a fait des chapitres où il scinde la dette, il scinde qu'est-ce qu'une banque centrale, et ainsi de suite, vous pouvez véritablement vous dire, tiens, moi je vais m'intéresser au mécanisme de l'inflation, au prix bloqué, puis vous lisez les 20 pages relatives à cette question, et puis voilà, après vous passez à autre chose si vous avez envie de lire voilà. Barbara Cartland. Voilà, ouais. C'est pour les plus audacieux.
C'est bien, mais elle a dû mourir maintenant, non ?
Oui. Oui. Sinon, attends, c'est quoi le truc avec les pharaons, là, tu sais,
c'est... Ah oui, c'est l'histoire des pharaons, comment il s'appelait celui-là
Jacques.
Christian Jacques.
Christian, oui, c'est ça, hein, c'est Christian... J-A-C-K.
Non, J-A-Q-U-S, mais qui faisait l'histoire des pharaons aussi.
De pharaons, il y avait toujours un méchant dans les pyramides et tout.
Mais c'était jamais celui, donc on va en savoir.
C'était pas mal. Bon, parlons un peu des crypto-monnaies. Donc, pour revenir sur ce cycle des classes d'actifs les plus performants, ça a été un modèle en forte hausse pendant 3 ans, en 2011, 2012, 2013, puis en 2015, 2016, 2017, et à nouveau en 2019, 2020, 2021, avant de restituer une grande partie de ses gains la quatrième année, 2014, 2018, 2022. Alors peut-être que les crypto-monnaies n'aiment pas les élections américaines de mi-mandat, ou est-ce qu'elles aiment que les années présidentielles, mais 2016 a connu la plus forte expansion de la capitalisation boursière du Bitcoin à ce jour, un record qui a été battu en 2020, puis laissé dans la poussière par l'expansion d'environ 2 millions de dollars US de la valeur du marché mondial des crypto-monnaies en 2024.
2 milliards.
Oui, 2 milliards. C'est quand même incroyable.
C'est-à-dire qu'il y a peut-être une raison qu'on pourrait expliquer, c'est que les politiques monétaires aux États-Unis, dans l'année qui précède l'élection, ont tendance à être plutôt...
Quantitative easing.
Donc, ils mettent plein de pognon dans le système.
Et, surtout quand on est démocrate.
Surtout quand on est... les républicains le font aussi bien, ce que disait... Milton Friedman, buvons un coup, mais Milton Friedman, il disait, les républicains passent leur temps à expliquer que le gouvernement n'arrive à rien, il est nul, et quand ils arrivent au gouvernement, ils le prouvent. Donc, J'espère que je vais me tromper avec Trump, mais quand on regarde une, par exemple en France, quand on regarde l'histoire de l'économie française, vous ne voyez à aucun moment une façon logique de discerner si c'était de la gauche ou de la droite qui était au pouvoir, quoi.
Ah bah en France, bien sûr, mais de toute façon, on n'a pas eu une droite avec des couronnes
depuis Pompidou. Oui, il y avait Philippe Seguin, mais voilà.
Enfin, il n'avait pas la capacité de bouger. Il a essayé, le pauvre, mais ça l'a brisé du reste.
Donc il y a peut-être ça. Et alors. Il y a aussi la réalité qu'on voit de plus en plus, c'est que la monnaie doit être un instrument de réserve, de valeur. On en a souvent parlé ici, j'imagine que les gens... Et qu'on le veuille ou non, les grandes monnaies, en particulier dans l'OCDE, ne sont plus des réserves de valeur. Donc on a besoin, c'est pour ça que l'or est monté aussi, mais parce que le marché est en train de créer, ce qui est tout à fait étonnant d'ailleurs, une réserve de valeur indépendante de ce que font les banques centrales. Ce qui est quand même très intéressant.
Mais alors, ce qui est difficile à évaluer pour vous, économistes, avec Bitcoin, c'est que, à l'inverse de l'or, où on a une traçabilité et une visibilité sur cet effet de rareté, c'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, au travers du temps, un beau costume d'homme et une paire de chaussures, ça a toujours coûté une once d'or, une maison médiane aux États-Unis, ça a coûté 250 onces d'or. Or, cette visibilité de se dire, globalement, voilà le coût d'une once d'or et voilà ce qu'on pouvait acheter avec, on ne peut pas l'avoir avec Bitcoin. On n'a pas cette profondeur.
Il n'y a pas d'historique. Mais par contre, on sait que la quantité de Bitcoin, contrairement à toutes les autres monnaies d'ailleurs artificielles comme ça, la quantité de Bitcoin est limitée dans le temps.
Oui.
Et c'est limité par un process qui permet la création du Bitcoin. Donc, c'est là il y a une question qui est très difficile à cerner, c'est... les choses ont de la valeur si les gens pensent que ça a de la valeur. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire la valeur est purement subjective. Donc, s'il y a suffisamment de personnes qui pensent que le Bitcoin vaut quelque chose, il vaudra quelque chose, quoi. C'est comme les coquillages autrefois
bien
ou n'importe
sûr,
quoi.
Mais et ça, je pense que ne t'inquiète pas. Je pense que les personnes qui tiennent les réseaux Bitcoin en sont extrêmement conscientes, puisque ils ont monté vraiment un gentleman's club et les réseaux sociaux et ainsi de suite. C'est véritablement des confraternité. Mais c'est un peu la limite de l'exercice que j'ai trouvé récemment désagréable, parce que dans cette idée de faire une réserve stratégique qui a été appelée par Trump et par d'autres politiciens inférieurs pour se faire mousser, ils ont, alors que la plupart du temps les bitcoiners sont des libertariens, ils sont restés appelés par l'appât du gain, en se disant on est plus intéressé par Bitcoin que par la pureté de l'analyse politique, de se dire surtout il ne faut pas que l'État y mette les doigts. Et ça m'a déçu d'eux, parce que je me dis, si véritablement vous aviez à cœur de défendre Bitcoin dans sa structure intellectuelle, vous devriez avoir à cœur de vous tenir très loin d'un État quel qu'il soit.
Mais on ne peut pas en plus pas empêcher un État d'acheter, mais je vois pas pourquoi l'État achèterait. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant dans Bitcoin. Je vais essayer d'expliquer comme ça. C'est que il y a la première loi de l'économie, c'est une loi qui a été formulée comme une loi, donc c'est la première fois que ça se passait, c'était vers 1560, c'est peut-être dans le bouquin de lui d'ailleurs, ça s'appelait la loi de Gresham, c'est-à-dire que la mauvaise monnaie chasse la bonne.
Oh, il n'y est pas, mais...
Il n'y est pas, bon.
I know it.
Oui, bon, c'est la mauvaise monnaie chasse la bonne. Alors donc ça veut dire quoi? Que si vous avez par exemple l'or et l'argent qui circulent comme monnaie en parallèle, si l'or devient rare par rapport à l'argent, tout le monde va garder l'or en réserve de valeur, va le mettre dans un trou, quoi, et va servir de l'argent pour acheter son pain, etc. Donc, petit à petit, tout l'or s'en va et il ne reste que la monnaie de moindre qualité. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand on regarde les transactions sur Bitcoin, qui sont très actives, il y a à peu près 5% des gens qui font du trading et 95% des gens qui achètent du Bitcoin et qui n'y touchent plus. Et qui n'y touchent plus. Donc, eux, ils ont fait, chacun d'entre eux, la mauvaise monnaie chasse la bonne. J'avais du cash dans lequel je ne crois pas, j'ai acheté ce machin-là, et je le mets littéralement comme l'or sous mon pommier. je l'enterre.
Oui, mais ce faisant, ils ont donc entériné l'autre nécessité d'une monnaie, parce que moi je me souviens des discussions qu'on avait, Bitcoin est-il une monnaie, et on disait les gens ne thésaurisent pas en Bitcoin. Or aujourd'hui, de plus en plus, ils thésaurisent en Bitcoin, et donc on commence à rentrer dans le temps long, non pas simplement de l'échange, du troc ou de la définition d'une valeur.
Ils s'en servent très peu, parce que si tu te places dans la loi de Gresham, le type, à partir du moment où il avait de l'or, il n'y touchait plus.
Oui, ben bien sûr.
C'est-à-dire que le fait qu'il ne transacte pas avec le Bitcoin, c'est pas une faiblesse du Bitcoin. Ça veut dire que les gens croient qu'il a plus de valeur.
Oui, oui, qu'un dollar américain.
Et que les transactions qu'il pourrait faire avec. Mmh. Et ce qui est très étonnant, c'est quand on regarde ensuite les gars qui ont gagné beaucoup d'argent avec le Bitcoin et qui en vendent, c'est toujours pour acheter de l'immobilier. C'est très curieux. Donc, il n'est pas impossible que le Bitcoin ait un impact immense sur l'immobilier de, je sais pas, à San Francisco, s'il y a beaucoup de Bitcoiners là-bas, j'en sais rien, simplement parce que quand il redescend sur Terre, le Bitcoin, quand il descend dans le monde réel, paf, les gens, c'est pour s'acheter une belle maison. Donc, il passe d'une réserve de valeur à une autre.
C'est marrant parce qu'au début, au contraire, on se servait de Bitcoin pour acheter... il fallait 10 Bitcoins pour acheter une tranche de pizza. Puis après, en début de cette année, un Bitcoin, ça permettait d'acheter une Toyota Corolla. Et maintenant, on peut acheter une Porsche Panamera.
Oui. Les gens ne le font pas parce que c'est des objets de...
Les gens ne le font pas. Alors qu'au début, Bitcoin servait à acheter... 10 Bitcoins servaient à acheter une pizza. Réellement, je me souviens des débuts du Bitcoin quand on en parlait. C'était vraiment, oui, vous pourrez payer votre nuit d'hôtel avec... Et maintenant, le Bitcoin, la valeur a cru. Et donc, il faut des...
Et je crois qu'aujourd'hui, le Bitcoin doit représenter quelque chose comme 10% de la capitalisation boursière de l'or. Et donc, la question... Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai souvent dit, les gens, sur le Bitcoin, j'ai souvent dit, il a une volatilité extraordinaire et il cessera de monter quand sa volatilité sera égale à celle de l'or. Parce que à ce moment-là, tu peux acheter de l'or ou du Bitcoin, donc ça te... Donc, le Bitcoin devait être dans un cône de volatilité qui baissait avec le temps. Au fur et à mesure qu'il était de plus en plus accepté, sa volatilité baissait en même temps que son prix montait, tu vois, c'était un peu l'idée de base. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe, parce qu'il avait une volatilité qui était 400% il y a 5 ou 6 ans, comme tu l'as dit, et maintenant, je crois qu'on est à 40% sur l'année. Donc, le cône de volatilité, ça baisse comme ça. Donc, un de ces quatre, ça va... faudra probablement 7-8 ans pour qu'on arrive à la volatilité de l'or. Et à ce moment-là, les gens arbitreront entre l'or et le Bitcoin selon leur capacité.
La question qu'on peut se poser sur cet univers cryptographique dans ces dernières semaines, c'est quand même la frivolité quelque part. Là, je te parle... pour 2025. On peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas, indépendamment du fait que Bitcoin représente quelque chose, sur un petit peu une bulle ?
Mais ça, on n'en sait rien.
Voilà. Parce que là, on est dans les projections.
C'est-à-dire que le Bitcoin, si tu veux, à partir du moment où il y a de plus en plus de gens qui pensent que ça a de la valeur, cette valeur montera automatiquement. Quoi. Donc, définir parler d'une bulle sur Bitcoin, les gens te disent, comme je le dis sur l'or, de toute façon, il ne peut pas y avoir de bulle, puisqu'un gramme d'or, ça vaut toujours un gramme d'or. Et les gens de Bitcoin te disent, un Bitcoin, ça vaut toujours un Bitcoin. Et c'est tout ce que ça vaut, pas plus, pas moins. Donc, tu définis la bulle par rapport à une autre monnaie. C'est peut-être l'autre monnaie qui est en train de se cracher. Donc, si tu veux définir une bulle, dire c'est une bulle, c'est automatiquement dire l'instrument que vous utilisez pour mesurer la valeur de cette bulle, vous considérez qu'il est constant. Et c'est une erreur logique, parce que moi je me tue à dire que le marché de New York, si tu le mesures en or, il n'est pas monté depuis 5 ans. Donc, en fait, ce qu'on a eu, c'est une grosse baisse du dollar, quoi.
Oui, bien sûr.
De pouvoir d'achat. Donc, peut-être la bulle qu'on a sur le Bitcoin, comme les gens parlent, c'est simplement que les gens, ce que je peux montrer avec tous les graphiques que les gens veulent, mais par exemple, tous les marchés d'Europe obligataires étaient ancrés par le Deutsche Mark. Aujourd'hui, ça vaut plus rien. C'est-à-dire que tu prends une obligation suisse, tu la mets contre une obligation allemande. C'était un grand horizontal pendant 20 ans. Un coût arbitraire d'acheter la Suisse, mais c'était une horizontale. Depuis la guerre d'Ukraine, l'obligation allemande s'est effondrée par rapport à l'obligation suisse. Et donc, le bitcoin est beaucoup monté en euros. Mais ce n'est pas tellement parce que le bitcoin est monté, c'est qu'il n'y a plus d'ancrage de valeur dans tous les marchés obligataires européens. Donc, si tu n'as plus d'ancrage de valeur, comment tu peux dire que c'est une bulle ou pas? Tu n'as pas d'outils pour le mesurer. Ce qui m'embête beaucoup, c'est que les gens, quand ils disent c'est une bulle, ils disent le standard de valeur, la monnaie, ne change pas de valeur. Ben, je leur dis, si. Aujourd'hui, les obligations allemandes, françaises et tout, ça vaut rien. Donc ça veut dire que la valeur du bitcoin est infinie.
Oui.
c'est embêtant, hein.
Alors, second point d'analyse de 2024 et sur la question qu'on peut se poser donc en prospect pour 2025, c'est le marché obligataire qui a été le plus performant, qui a été la Chine. Qui est, alors, toi, tu n'as pas été surpris, c'est pratiquement aussi prévisible que les articles du Wall Street Journal qui disent du mal de la Chine, donc voilà, c'est à effet, double effet. Et donc, en dollars américains, les obligations chinoises, d'État chinoises, ont surpassé tous les autres marchés obligataires gouvernementaux en 2020, 2021, 2022 et 2024, soit 4 des 5 dernières années. Donc, sur les 5 dernières années, le marché obligataire chinois, donc les obligations chinoises, ont surperformé tous les autres marchés obligataires.
Il me semble qu'on l'a dit, non ?
On l'a dit, mais est-ce qu'on a le droit de dire « I told you so » ? Je vous l'avais bien dit, voilà.
Non, c'est pas tellement ça, c'est pourquoi ça a fait. Pourquoi ça a fait bien ? Parce que la Chine, comme j'ai essayé de l'expliquer 25 fois, est en train d'essayer de créer une zone monétaire autour d'elle. Et donc, elle a stabilisé ça. Et la Chine, je viens de dire que la Bundesbank n'était plus l'ancre de valeur.
Mais ça, tu en as parlé souvent, c'est-à-dire que la première chose qu'a fait la BCE, ça a été justement d'attenter au pouvoir de la Bundesbank.
Foutre en l'air la Bundesbank.
Et foutre en l'air, quelque part, cet ancrage et la gérance qu'avait sur les monnaies européennes.
Qui était un substitut au... alors, en quelque sorte. Donc, si tu veux, un gérant comme moi qui existait dans les années 70, 80, 90... Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, quand il était, ce que me disait mon vieil ami Bernd Notz, il disait, Charles, il faut que toujours tu te souviennes que la monnaie américaine sera toujours gérée pour que les actions montent, et la monnaie allemande sera toujours gérée pour que les obligations montent. Donc tu regardais sur 30 ans, les actions allemandes et les obligations, les actions américaines et les obligations allemandes avaient fait la même performance en une seule monnaie. Donc, le jeu du gérant, c'était de te dire, tiens, les actions américaines ne sont pas chères par rapport aux obligations allemandes. Tu vas acheter des actions et je vais vendre des obligations, ou vice-versa, tu vois, c'était...
Mais un gérant relativement passif pouvait se dire, j'achète de l'obligation
allemande... et je fais du 4% réel et je suis tranquille.
Mais ma foi...
C'est ce qu'on essaye de faire avec le portefeuille permanent.
Bien sûr.
C'est 4% c'est de remplacer la Bundesbank, voilà, au niveau individuel.
Et c'est d'ailleurs, je voudrais revenir sur ça, parce que des gens ont encore du mal à comprendre ce qu'on fait avec le portefeuille de l'Université de l'Épargne et de l'idéal. L'idée, encore une fois, c'est pas de... Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, en plaçant au S&P, j'ai plus, j'ai... Mais très bien, l'idée... dans ce portefeuille, c'est d'écarter tout risque. C'est de vous dire, on va faire en sorte que vous ayez un rendement pérenne, 4%, 5%, et on
va... En termes réels.
En termes réels, bien sûr.
Alors que l'économie croît d'un et demi.
Voilà.
C'est vachement balèze, hein.
Et en revanche, on va faire en sorte d'annihiler tout risque. Or, aujourd'hui, vous me dites, je joue le S&P très bien, mais on va tous se dire que le S&P aujourd'hui est tiré par ses Magnificent Seven, on reviendra dessus, et que en revanche, on peut considérer qu'un jour, une société comme Nvidia va probablement...
On ne sait pas. Mais est-ce qu'il y a...
Non, mais attends, il y a une bulle spéculative sur ses valeurs. Bah, arrête.
C'est évident, mais ce que j'essaie de dire, c'est que dans ma carrière, la bourse de New York, en termes réels, c'est 4 fois péter la gueule de plus de 50%.
Et quand ce jour-là, vous prenez la perte, eh ben, ça vous fait une culotte courte.
Mais
et
c'est pas ça. C'est
et
que
nous,
quand
on
vous
l'aura pas.
Nous, on l'aura pas. Mais c'est un peu ça l'idée. Mais quand vous avez baissé de 50%, la question se pose à ce moment-là. Bon, j'ai perdu 50%. Est-ce que j'arrête d'investir ou est-ce que je continue? Parce qu'il y a eu des baisses de 75%. Donc, à ce moment-là, quand tu arrives à 75%...
Je te parle même pas si tu as pris du levier sur...
Si tu as pris du levier, tu es liquidé.
Tu es liquidé.
Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que se pose la question qu'après ces grandes baisses, que j'appelle les Ursus Magnus, les bear markets, là, les vrais, les grands, se pose la question, quand ça baissait déjà pas mal, qu'est-ce que je fais? Je vends ou je reste? Alors, mais si, mettons, tu as de quoi vivre par passer ta retraite avec 100... et que tu tombes à 50, tu vois, tu te dis, mais ma retraite, ça va être horrible. Donc, si je tombe à 25, je serai cuit. Donc, tu vends au pire moment.
Et tu es fait comme un camembert.
Exactement. Et donc, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ils ne sont pas symétriques entre les hausses et les baisses. C'est-à-dire, si ça monte, ils sont très contents. Mais si ça baisse, il y a un moment où ils ne peuvent plus.
Je pense qu'effectivement, dans une décision de gestion, tu dois te poser la question de, évidemment, je serai très content, et ta perte maximum, qu'est-ce que je suis prêt à prendre dans la figure comme risque? Et est-ce qu'une perte de 50%, possiblement, serait pour moi gérable humainement? Et en général, la réponse va être non. Donc, regardez avant toute décision de gestion, véritablement, en vous disant, voilà... Vraiment, ça pourrait arriver. Alors, ça peut être 10%,
12%. C'est pas que ça
pourrait
arriver. Ça va arriver. Personne ne sait quand. Mais ça va arriver. Il y a un moment où vous aurez des baisses de 50%. Notre portefeuille, à ce moment-là, baissera probablement de 10%. Parce qu'il est fait, pour ça. Mais on ne se posera pas de questions pour savoir s'il faut tout liquider.
La réponse est non. Il ne faudra pas tout liquider.
Il ne faudra pas tout liquider. Mais si vous êtes dans le S&P 500 et qu'il baisse de 50 ou 70%, qu'est-ce que vous faites? C'est et alors, quand les marchés baissent, je me souviens, moi, quand il y a eu le crack de 87, j'ai l'air d'un vieux, c'est vrai d'ailleurs, quand il y a eu le crack de 87, j'avais sorti avant que ça allait pas bien, je m'étais mis à peu près 35% en cash. Donc, le crack, ça a été une baisse de 27% en une journée. Je sais pas si tu en comprends, 27% en une journée. Eh bien, moins 27, en m'étant mis 35% en cash... J'ai baissé de 23. Ça veut dire que dans les baisses, la volatilité à la baisse, sur chacune des valeurs individuelles, tu te dis, le marché a perdu 27%, mais il y a des trucs qui ne bougent jamais dans le marché, tu as les actions qui donnent du 7%, qui ne se passe rien. Et donc les actions que toi, celles dont tu espères qu'elles vont bouger, quand ça bouge, c'est-à-dire que le type qui était investi, normalement, il n'a pas baissé de 27, il a baissé de 42. Mmh. Donc, si ça se met à baisser... Les baisses que vous allez avoir dans votre portefeuille vont être beaucoup plus fortes que les baisses que vous avez en regardant l'indice. Et si cet indice est un indice market cap où 7 valeurs font 32% de l'indice, vous pouvez vous retrouver avec une baisse de 50-60% de l'indice, facile. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous voulez rester sur les indices américains, ce qui est votre droit et votre choix, mettez-vous dans un indice non pondéré où chacune est à 1/500.
Oui. Oui.
De façon à ce que comme ça, vous aurez l'indice. Mmh. Vous n'aurez pas l'indice plus la gonflette des 7 valeurs. Et ça ne coûte pas cher, hein, parce que c'est les mêmes. Hein,
Alors, pour revenir et terminer la petite ouverture sur les obligations d'État chinoises, alors, bien sûr, il y a l'impact moral. Certains disent, oui, mais monsieur Gave, est-ce que vous ne considérez pas que c'est amoral, immoral, d'investir dans un pays chinois? Bon, alors, sans rentrer dans la philosophie kantienne,
Écoutez, j'en sais rien, mais qu'est-ce qui est le plus... Moi, je regarde le gouvernement chinois, il dit à tout le monde, si vous épargnez dans ma monnaie, vous ne serez pas spolié. Ce que disait la Bundesbank. Et puis de l'autre côté, je regarde nos monnaies, etc. Et je sais que le but, c'est de nous spolier, de nous voler.
Bon. Bah, si tu veux, on a Sandrine Rousseau qui tend à prétendre, cette grande dame, qui est quand même docteur en économie, nous explique que l'épargne doit être captée et qu'elle est là pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Donc,
pour payer le salaire de Sandrine Rousseau.
Et ses petits amis.
Voilà. Oui, ses petits amis. Donc la vraie question, si vous voulez, c'est... Maintenant, les taux en 10 ans sont en train de se rapprocher de 1% en Chine, donc, ça devient un peu difficile de... Mais par contre, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que tous les signes sont là, avec les taux qui ont tellement baissé, ben, y a beaucoup de sociétés en Chine dont la rentabilité du capital est très supérieure aux taux qui ont beaucoup baissé, c'est pour ça. Même si eux, ils sont toujours à 3%, ce qui n'est pas terrible, mais avant, ils étaient à 4 les taux, donc il fallait acheter des obligations et vendre des actions. Mais si les taux tombent à 1 et que les actions restent à 3, il faut vendre des obligations pour acheter des actions. Donc, aujourd'hui, je dis aux gens, il faut que vous achetiez des actions chinoises.
Oui, ben c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait dans le portefeuille UDE, donc de l'Université de l'Épargne, où on vous a dit d'aller acheter des ETF Chine.
Asie ex-Chine,
Asie
ex-Japon.
Pour jouer la croissance de la zone. Pour l'instant, on ne met pas d'Inde dedans parce qu'on les trouvait surévalués, donc pas un bon prix. Bon, enfin, si vous avez envie d'acheter des choses trop chères, ça vous regarde. L'Inde fera bien sur le long terme, mais on ne voulait pas y rentrer maintenant. On y était il y a 2 ans, mais pas là. Voilà. Donc, pour ce qui est des bons du Trésor américain...
Alors, il y a un truc intéressant, c'est Musk. Parce que Musk, il veut couper 2000 milliards de dépenses qui servent à rien. Alors ça, s'il fait ça...
Would or should.
Mais il va le faire. Il va essayer de le faire, en tout cas. Mais en tout cas, il y a une volonté très nette de la part du gouvernement américain de dire ce que dit Musk toute la journée. Tous ces gars qui foutent des réglementations partout, ça sert à rien. Donc, s'ils déréglementent massivement... Et s'ils font baisser le déficit budgétaire, mais ça c'est autre chose, par des coupes de l'État, on peut avoir ce que j'appelle un effet Milley. C'est-à-dire que...
Je tiens à dire que nous avions ici, avec Charles, avec Léonard, dans toutes nos émissions, nous vous avions annoncé ici que Milley, ça allait être un succès. On l'a toujours dit, on le dira toujours. Et quand les gens viennent aujourd'hui dire « Oui, regardez, ça marche
c'est surprenant,
et tout ça ».
Ça marche. Mais c'est ce qui est surprenant, c'est qu'ils font exactement l'inverse de ce qu'on fait en France. Et ça marche. Alors, ça veut dire que nous, ce qu'on fait en France, ce que va faire le grand dépendeur d'Andouille qui a été nommé ministre des Finances, je ne sais pas d'où il sortait celui-là.
Celui, est, oui.
Il ressemble à...
Celui qui explique qu'il faut faire comme Spider-Man, une grande fonction implique une grande responsabilité en citant Spider-Man. Je me suis dit, est-ce que ces gens sont... Alors je disais en rigolant sur mon Twitter qu'ils s'étaient réveillés avec une grosse envie de tisser, mais que ces gens... pense vulgairement. C'est-à-dire, tu pourrais quand même, je sais pas, à la hauteur de la situation, citer Sénèque ou Nietzsche, ou enfin un truc qui est un peu de la classe, quoi. Je pense que leur équipe de communication leur dit qu'il faut faire jeune.
Il faut faire jeune, oui. Mais en plus...
Ils font jeune, mais jeune-vieux, tu sais.
Mais non, mais on le regarde, on a un grand coup de désespoir. Et ils pensent qu'il faut augmenter les impôts et qu'il faut... c'est un économiste de gauche. Alors ça me fait toujours rigoler, parce que si on met un économiste de gauche, si on met un qualificatif derrière un économiste, c'est que c'est pas un économiste. C'est que si l'économie c'est une branche de la logique, c'est pas une branche de la science politique, quoi. C'est qui d'ailleurs est un autre mot qui veut rien dire.
Oui. Alors, dans les choses qui ont très bien fonctionné en 2024 et qui, a priori, devraient continuer en 2025, l'or. Ouais. L'or a
et
terminé...
Alors l'or, il est bien l'or, il arrange
avec
beaucoup.
Un gain de 26% par rapport au dollar américain. Et c'est impressionnant, et c'est une meilleure performance de l'or en 2024 depuis 40 ans.
Alors, je suis en train de préparer pour l'Université de l'Épargne un truc en disant, dites les gars, on vous avait recommandé 4 actifs, l'or...
Le yen... Qui se fait attendre, hein.
Pas en euros. Il monte en euros. Il monte gentiment, je crois qu'il est à 4-5%. Pour du cash, c'est bien, quoi. Et qu'est-ce qui était le quatrième? C'était l'énergie. Les autres, ils ont fait... Allez, l'énergie a fait... mettons 10%, le yen a fait 3 ou 4, et l'or a fait, comme tu l'as dit, 33.
Non, 24.
24, pardon.
33, c'était ce qu'on avait dit d'acheter.
D'acheter, oui.
On était à 33 et 17.
Donc vous avez ces positions-là, et vous vous dites, bon, si je regarde maintenant l'or contre les actions chinoises...
Les actions chinoises vont faire mieux, tu penses?
Ben, c'est-à-dire que sur 25
ans... La marge de progression possible
Non, mais sur 25 ans, c'est complètement... Avec les dividendes réinvestis, c'est complètement plat. Et aujourd'hui, on est à deux écarts types sous-évalués, ce qui est arrivé que trois fois sous les actions chinoises. Donc, je vais dire aux gens, c'est le moment de rééquilibrer vos portefeuilles, tu sais...
Tu me prépares ça pour jeudi?
Oui.
Ouais.
C'est le moment de rééquilibrer parce que l'or...
Non, mais sérieusement, tu me prépares ça pour jeudi?
Tout à fait, c'est déjà sur ce que je travaille. L'or contre le yen. Mais aujourd'hui, si tu veux, le yen en or, l'or en yen ou l'or en dollar, c'était la même chose sur le long terme. Et aujourd'hui, l'or en yen, il est à quelque chose comme 40 000 et l'équivalent dollar serait à 24 000. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des gens au Japon qui se sont fait vraiment beaucoup de pognon sur l'or. Si le yen se met à monter, ces gens vont se dire, mais je vais vendre mon or et prendre là. Donc, je dis aux gens, c'est le moment de prendre d'une partie de ces gains que vous avez fait de 25%, je ne sais pas combien, et de les remettre dans les trois autres actifs, énergie, yen, ou Asie avec Japon, parce que là, comme sur le long terme, ce sera horizontal, vous vendez un truc qui est très cher aujourd'hui pour racheter trois trucs qui ne sont pas très chers, ce qui va faire monter la moyenne historique de votre portefeuille.
Est-ce que ce n'est pas possible aussi qu'on soit rentré dans des temps, c'est une question, où comme une certaine partie de la population en Inde, en Chine, après la crise immobilière, ont eu accès à des capitaux, que ces gens n'aient pas décidé aussi d'acheter de l'or, ce faisant, permettant au marché de monter, mais rendant aussi la vélocité de l'or
C'est-à-dire que l'or, en plus, je regarde, quand tu regardes l'or en yuan, tu te mets, on a parlé des obligations chinoises, depuis 2013-2014, les obligations chinoises en yuan et l'or ont fait à peu près la même performance. Et aujourd'hui, l'or est très cher par rapport aux obligations chinoises si tu prends cette horizontale. Donc je regarde l'or, je me dis... Il y a aussi autre chose qui m'embête avec l'or, c'est qu'il y a un vieux proverbe boursier, les boursiers ne sont pas des sentimentaux, hein, ça se saurait, qui dit « quand le sang coule, l'or monte ». Ce qu'il y a de meilleur pour l'or, c'est la guerre.
Oui. Ben, on en a eu, on en a deux là.
On en a deux, mais il y a Trump qui arrive en disant « moi je vais faire cesser ces conneries
».
Donc, ceux qui gardent de l'or aujourd'hui pensent que Trump va échouer dans son désir d'arrêter.
Ou alors, ils savent que la situation au Moyen-Orient, on peut aller tenter d'aller le pacifier, mais ça ne s'est pas résolu.
Oui,
mais
enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais l'axe chiite iranien a sauté. Le Hezbollah n'existe plus, le Hamas n'existe plus, l'Iran est extraordinairement affaibli. Donc on peut dire, on est en train de tisser une immense victoire des sunnites sur les chiites. Et le représentant des... Donc, le fauteur de guerre, qu'on le veuille ou non, au Moyen-Orient depuis 40 ans, depuis les Carter d'ailleurs, ce grand président qui vient de nous quitter, c'était les chiites. Et donc, si par hasard les chiites sont terriblement affaiblis, on va peut-être avoir une période de paix et de croissance au Moyen-Orient. Je ne dis pas que ça va se passer, je dis que ça n'est pas impossible.
Oui, puisque là, on est dans les prospectives.
Dans les prospectives, ça n'est pas impossible. Donc, à ce moment-là, l'or va peut-être... Le côté sanguinaire de l'or va peut-être se dégonfler un peu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il me semble que ce n'est pas un mauvais moment pour mettons que l'or soit monté d'un tiers ou j'en sais rien.
24.
Ça fait 25%. Donc, vous prenez ces 25% que vous avez gagnés et hop, vous les remettez dans les trois autres.
Oui, normalement, c'est ce qu'on appelle
le rebalancement. Il me semble que c'est un très bon moment pour faire un rebalancement de l'or vers autre chose.
On en reparlera jeudi, j'essaierai de montrer les graphiques. Alors, enfin, parlons du marché des actions le plus performant, qui a été les États-Unis. C'est ce que je disais en introduction. Le problème qu'on a, c'est qu'on a un S&P qui est tiré à la hausse par les Magnificent, par cette valeur, et le reste qui performe gentiment, mais qui n'ont peut-être pas la croissance qu'elle devrait avoir, parce que quelque part les autres tirent tellement la capitalisation qu'elle se retrouve, on va parler de Schlumberger par exemple, tu te dis c'est dommage que des belles valeurs comme ça soient pas mises en exergue alors que d'autres entraînent, parce que les gens jouent le S&P bêtement et jouent ces 7 valeurs.
Voilà, alors je crois que l'explication qui est donnée par beaucoup de gens, c'est que ces 7 valeurs sont absolument inouïes, qu'elles représentent le futur et tout, donc il faut les avoir.
On est tous d'accord, mais il faut raison garder.
Je me demande toujours dans les marchés financiers quelle est la cause et quel est l'effet. Donc, je crois que, moi, l'explication que j'ai, et qui n'est pas celle qu'acceptent la plupart des gens, c'est que les États-Unis ont des déficits extérieurs absolument monstrueux. Dans le temps, quand les déficits extérieurs devenaient trop monstrueux, les gens qui recevaient des dollars parce qu'ils avaient vendu des bagnoles aux États-Unis prenaient ces dollars et achetaient des obligations en Allemagne.
Mmh. Oui. Comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça leur donnait un petit 4-5%. Et puis.
Et ils attendaient tranquillement que les bêtises cessent aux États-Unis.
Bon. J'aurais fait pareil.
C'était la bonne solution. Maintenant, nous, on a dit aux gens, il faut remplacer l'Allemagne par la Chine, ce qui s'est passé dans la réalité, mais pas dans les flux de capitaux, parce que les gens considéraient que la Chine était ininvestissable, parce qu'un de ces quatre, ils allaient envahir Taïwan. Ils n'ont jamais regardé une carte. Hein.
C'est très drôle parce que dès qu'on veut faire peur. Alors, je pense qu'il y a une volonté des hommes de Davos d'empêcher les gens d'aller investir en Chine. Un, parce qu'ils veulent garder les capitaux ici pour financer leur déficit. Donc, ils vous sortent cette histoire de Taïwan que tout le monde bouffe. Hein. C'est-à-dire que dès que je commence à parler de la Chine, les gens me disent
oui, mais alors.
Ils vont investir, etc. Je dis, mais personne n'en parle. Mais personne n'en parle. Personne, tout le monde s'en fout. Il n'y a que vous qui tressautez sur ça.
Et c'est pas à 30 km. Hein.
Oui. Et puis il n'y a qu'une plage, et puis machin.
Mais il y a tout. Et puis les Chinois, pas du tout. Les Chinois qui sont des vieux stratèges préfèrent beaucoup acheter les gens que faire la guerre.
Alors, j'ai encore vu un extrait de TV Liberté où le maire, il va envahir Taïwan. Je dis, mais personne ne va envahir Taïwan.
Mais personne ne va envahir Taïwan. D'abord, c'est pas faisable. Et ensuite, ils ont une alliance militaire et des.
Et puis les Chinois essaient de construire un truc économique, qui ne sont pas là pour.
Mais ce que j'essaye de dire aux gens, j'ai parlé il y a 20 ans au ministère des Affaires étrangères de Taïwan. Et je demandais quelles sont les lignes rouges que vous ont mis les Chinois. Il y a deux lignes rouges. La première, c'est que nous n'avons pas le droit de rechercher l'arme atomique. Si nous commençons à construire une bombe, ils nous rentrent dedans.
Fair enough.
C'est ce que font les Américains avec l'Iran, donc il n'y a rien de nouveau. Et le deuxième truc qui est important, c'est si nous déclarons notre indépendance. Or, aujourd'hui, il y a les deux tiers. Il ne faut pas oublier que Taïwan s'appelle la Chine. Ils se disent qu'ils sont donc ils veulent pas plus, et il y a les deux tiers du congrès taïwanais qui est contre toute déclaration d'indépendance. Donc les gens qui disent ne connaissent pas la région, et donc c'est vraiment un drôle de truc. Mais alors maintenant revenons à l'idée, ils avaient plein de dollars, ils achetaient des obligations. Alors maintenant ils ont plein de dollars, mais qu'est-ce qu'ils peuvent acheter? Ils ne peuvent plus acheter des obligations allemandes.
Non.
Ils ne peuvent plus acheter des obligations américaines non plus, parce qu'elles savent que c'est de la saloperie aussi. Sauf si ce brave. Comment il s'appelle, Musk réussit son coup de dégraisser le mammouth. Tiens, il est mort, Allègre. C'est dommage, c'était un type bien.
C'est ça
Allègre.
Oui.
Il est mort, c'est dommage, c'était un type bien, je l'aimais bien. Enfin. Donc, tu as plein de dollars aujourd'hui. Tu te dis, bon, j'achète de l'or. Comme je te dis, l'or, ça commence à devenir.
Ça va être difficile de faire des sous dessus. Tu peux, si c'est juste pour l'enterrer et se dire que tu es tranquille.
Oui, mais il est beaucoup monté, t'as un peu la troupe.
Oui,
le marché n'est pas énorme.
Le marché n'est pas énorme.
Donc, quelle est la seule chose que tu peux acheter dont tu penses que c'est sur le long terme une bonne réserve de valeur? C'est le marché des actions américaines. Et comme tu y connais rien, tu vas acheter l'indice.
Oui.
Et comme tu vas acheter l'indice, ça va faire monter ces 7 valeurs.
Et voilà. Et tu es dans
une espèce de cirque où le déficit budgétaire américain finance le déficit extérieur. Le déficit extérieur se retrouve dans les mains de gens qui ne savent pas quoi faire des dollars et qui donc achètent Microsoft.
Alors, qu'est-ce qui pourrait mettre fin à ce cycle infernal? Est-ce que les gens ne vont pas se dire au bout d'un moment, tiens, peut-être que je pourrais aller sur le marché chinois et se retrouver à court de liquidité, alors, du coup, sur peut... le marché US.
Alors, ce qui se passe, c'est que...
Parce que la Chine emprunte moins cher aujourd'hui que les
US.
Cher,
beaucoup moins, 300 points de base quasiment. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que je vois dans les chiffres, j'ai fait un papier là-dessus d'ailleurs, pour les clients de Kafkal, c'est que ce que je vois dans les chiffres, c'est qu'il y a une partie de ce pognon qui retourne comme ça vers le marché américain. Mais il y a une partie très importante qui reste en dépôt à Hong Kong.
Oui, on en a déjà parlé.
On en a déjà parlé.
Pour le finan.
Donc, il y a Keynes qui avait un sens de la formule remarquable. Quand on parle de vélocité de la monnaie, les gens ne comprennent pas très bien. Qu'est-ce que ce truc-là, pourquoi ça bouge, enfin bref. Il dit, c'est, si vous devriez parler de préférence pour la liquidité, qui est l'inverse. C'est-à-dire quand les gens ont la trouille, le bas de laine croît, tu vois, ça grossit.
Il n'y a qu'à voir en France aujourd'hui, on n'a jamais autant épargné.
Voilà, donc c'est exactement ça. Donc la vélocité s'écroule, mais ça veut dire que la préférence pour la liquidité, ce qui est l'inverse, a beaucoup monté. Donc aujourd'hui, tu as une préférence pour la liquidité dans le monde asiatique, ils sont tous bourrés de cash, et ils sont tétanisés par l'arrivée de Trump, le protectionnisme, donc ils le laissent en cash en se disant...
on verra.
On verra après, puis ensuite ma monnaie risque de baisser contre le dollar, donc si je le laisse en cash en dollar à Hong Kong, j'ai pas de problème, je le mets en dollar de Hong Kong, c'est pareil.
Encore une fois, on a le souvenir de perte de liquidité qu'il y avait eu dans les, en 2008.
Donc, j'ai mes réserves de liquidité si jamais il attrape... Donc, il faut bien se rendre compte que la partie qui a été investie a été dans le S&P, mais la question, c'est la partie qui reste, qui n'a pas été investie, qui peut être considérable. Dans quoi elle va aller ensuite ? Et moi, je crois qu'elle peut aller que dans les marchés des actions en Asie. C'est pour ça que je dis aux gens...
C'est pour ça que tu dis aux gens d'y aller.
D'y aller. Mais je ne sais pas quand ça va se passer.
Non.
Mais c'est quand le barrage va péter, la préférence pour la liquidité va s'effondrer... Les marchés asiatiques vont péter à la hausse, et à ce moment-là, vous n'en aurez pas assez. C'est pour ça qu'en avoir aujourd'hui, c'est une façon de... D'ailleurs, il met en doigt comme ça, il ne monte pas. Ici, il est monté un petit peu toute l'année dernière, il est monté. Donc ça commence à monter, mais petitement.
Et enfin, pour finir cette analyse de 2024 et prospects 2025, on peut clairement dire que, comme nous l'avions dit, le marché émergent le plus performant est bien l'Argentine. Les actions argentines mesurées par l'indice MSCI Argentina ont plus que doublé en 2024. Ce qui est encore une fois la preuve que quand une personne à demi rationnelle fait des choses que nous prêchons depuis 15 ans maintenant de façon concrète, et ben ma foi, on en voit les résultats assez vite. Et
les marchés financiers anticipent. Ce qui se passe, c'est que d'un seul coup, elle place la duration des investisseurs à la place d'être l'an prochain, un an, avec des taux à 70%, j'en sais rien. Comme les taux passent à 7 ou à 8, vous passez de 1 an à 10 ans. Donc les profits, d'un seul coup, à la place d'être escomptés sur l'année qui vient, sont escomptés sur 10 ans qui viennent, le marché explose à la hausse. Et c'est ce qui se passe toujours dans ces cas-là. Et c'était ce qui s'était passé au Canada, et c'est ce qui s'était passé chaque fois que le gouvernement a fait son boulot. Donc, ce qui est extraordinaire quand on regarde notre pays, c'est à quel point la classe dirigeante refuse l'idée même d'une baisse des dépenses de l'État. L'idée qu'il pourrait y avoir de l'argent gaspillé par l'État est une idée qui est comme un gros mot.
La seule... Le problème qu'on a, c'est qu'encore une fois, on a une gestion de la chose économique qui a été prise par l'éducation nationale et qui tire le message économique vers « il faut taxer les riches », indépendamment du fait que quel riche ou ça, c'est-à-dire que ça va
les
servir.
Riches, je crois, ils payent déjà, les 10% les plus riches payent 90% de l'impôt.
Voilà, mais alors on est toujours en train de regarder parce que Bernard Arnault a eu un avantage fiscal, parce qu'il a fait une association, enfin bon, de toute façon, c'est pas la question. Ça va se terminer par... fiscaliser les dentistes et les prothésistes de lunettes. Voilà, et je pense pas que ça soit l'epsilon d'une bonne gestion économique, sans pour autant, encore une fois, couper dans les mille ADEM, AREM, ADR, tous ces organismes de on sait pas quoi ils servent, qui nous coûtent un pognon de dingue, et ce millefeuille territorial qui nous coûte un pognon qu'on ne peut plus. Encore une fois, on a fait une émission sur ça.
Le spread entre la dette française, la dette danoise, la dette italienne, etc. Je montrerai le graphique aussi jeudi, ne cesse de se détériorer. C'est-à-dire que les gens me disent, mais ils nous financent toujours. Oui, mais il y a 2 ans, on était, en 3 ans, on finançait à peu près comme la dette danoise, au même niveau. Aujourd'hui, on paye 120 points de base de plus, c'est-à-dire 1,2% de plus que le Danemark.
Sachant encore une fois que le financement de notre dette est le deuxième poste économique, c'est-à-dire on a besoin de 60 milliards demain, on le dit encore une fois, on ne voit pas cette année comment ça va pouvoir passer.
Surtout que, alors je regardais un truc qui est intéressant, c'est que vous savez, la dette française a une duration moyenne d'à peu près 8 ans. C'est-à-dire que il y a 1/8 de la dette qui retourne tous les ans. Bon, et donc, arrive maintenant, à partir de l'an prochain et surtout de l'année prochaine, les gros déficits d'il y a 8 ans. Tu vois, c'est-à-dire que le trou qu'on doit creuser n'est pas un trou moyen, c'est un trou qui est dépendant de ce qu'on avait il y a 8 ans. Si on a beaucoup émis il y a 8 ans, il va falloir beaucoup réémettre aujourd'hui.
Et trouver des pigeons pour y souscrire. Alors oui, la BCE va venir 400... devant.
Oui, mais non, mais elle peut...
Au bout d'un moment...
Elle a déjà 20% de notre dette. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que... C'est amusant. On dit la BCE a acheté 20% de notre dette. Mais en fait, c'est la Banque de France.
Oui.
Puisque la Banque de France agit pour le compte de la BCE. Donc aujourd'hui, la Banque de France, dans son bilan, a 20 ou 25% du déficit budgétaire français des dernières années. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont imprimé du papier comme des cornures. Tu vois ce que je veux dire? C'est ils ont imprimé du papier comme des cochons. Ça, ils ont fait marcher à la planche à billets.
Oui, bah bien sûr. Et les Français s'en rendent compte aujourd'hui. Je regardais un petit reportage hier sur le prix des voitures ramenées au salaire.
Oui.
Les gens se rendent bien compte qu'ils ont quand même aujourd'hui beaucoup moins de capacité à s'acheter un véhicule remis au salaire que d'antan.
Eh bien, tu prends par exemple la grande société BYD, la chinoise. Il y a 10 ans, il fallait 2 ans de salaire pour eux. Et maintenant, ils en sont à 3 mois de salaire pour acheter la voiture de base. Donc, en Chine, c'est de plus en plus facile d'acheter une bagnole. Et en France, ça devient de plus en plus impossible. Et c'est ce que je raconte toujours. Quand j'allais en Asie il y a 30 ans, il y avait des pousse-pousse. Tu sais, des gars qui pédalaient, toi t'allais derrière et t'avais l'impression d'être t'attendre le Lotus bleu. Tu fumais ton cigare avec le gars qui pédalait. C'était du bon colonialisme, si j'ose dire. Et puis maintenant, tu vois les touristes chinois qui louent des pousse-pousse à la Tour Eiffel.
Ouais.
Donc, si j'ose dire, tu te dis, bah, il y a eu un petit déplacement là. C'est nous qui sommes en train de devenir colonisés.
Alors, écoute, ça c'était le petit tour de on est à 47 minutes.
On peut parler du livre.
On va parler du livre pendant 10 minutes si tu veux.
Bien sûr.
Le livre de Jean-Marc Daniel, Sans transition, qui s'appelle Nouvelles leçons d'histoire économique, dette, inflation, transition énergétique, travail, que voici, est un livre qui est très bien monté avec des chapitres qui reprennent encore une fois, comme je le disais en introduction, les points historiques. Donc ça commence par la banqueroute, ça parle du fisc, ensuite la croissance, une monnaie solide, les banques, le protectionnisme et la guerre des monnaies. Alors je me suis focalisée en ce qui nous concerne sur le rôle de la banque centrale et de la dette publique et un petit peu sur le rôle de la monnaie parce que ça, je trouvais que c'était plus notre truc. Et alors Jean-Marc Daniel revenait sur cette notion assez intéressante. On le dit toujours que l'État ne s'enrichit que du travail et de l'efficacité productive de l'ensemble de la société. Et vouloir réfléchir aux ressources publiques, c'est réfléchir aux ressources de tous.
Comment on crée de la valeur dans le pays?
Ce que l'économiste français du XVIIIe siècle traduisait par la formule « pauvre paysan, pauvre royaume, pauvre roi ». On comprend un peu l'idée de ça. Et alors, tout au long du XVIIe, XVIIIe siècle, effectivement, la grande idée a été d'essayer d'éviter la banqueroute parce que on avait eu toute une série de banqueroutes
L'ancien régime a toujours frisé la banqueroute. Et la France empruntait à 300-400 points de plus que la Grande-Bretagne, qui avait des finances en bon ordre, parce que c'était géré par les communes. Donc, le vrai problème, c'est que la France, à de rares exceptions près, la classe dirigeante n'a jamais réussi à tenir un budget, historiquement. Jamais.
Alors, tu as Condorcet qui analyse que la dette publique est sur le plan économique un stock, et en tant que telle, elle ne devrait pas influer sur le taux d'intérêt qui est le prix des flux, c'est-à-dire des emprunts contractés chaque année.
Donc il disait que le taux d'intérêt était déterminé par les prix marginaux,
voilà.
Ce qui était bien de sa part. C'était avant que ça soit inventé. Il y avait des tas de gens qui ont dit, par exemple, Cantillon a dit des choses incroyables.
Et alors, bon, la dernière banqueroute de la France officielle, ça a été les deux tiers, le 30 septembre 1797. Dominique Ramel, ministre des Finances du Directoire, fait voter une loi annulant les deux tiers de la dette publique. Donc, cette dette était dans le portefeuille des particuliers, les trois quarts du temps.
Et surtout, par exemple, dans les banques à Genève. Et tu ne peux pas savoir le nombre de banques à Genève qui ont sauté en 1798.
C'est comme quand
Philippe II avait annulé la dette italienne
et
la dette espagnole, et ben toutes les banques italiennes ont sauté.
Et ça a été fait par Saint-Louis également. Ça a été fait. Les rois, au travers du temps, avaient pour méthode d'aller voir les grands banquiers génois, de leur dire « vous allez financer nos croisades ». Les autres se disaient « ah bah super, une période expansionniste, on va se payer sur l'or qu'on va piquer là-bas et toutes les richesses qu'on va piquer là-bas ». Sauf que le moment venu, quand il s'agissait de rembourser, on trouvait que décidément, ils sentaient un petit peu des pieds et on leur disait « mais allez bien vous faire voir ». Et ils pouvaient faire à ce moment-là banqueroute.
Et à ce moment-là, l'économie italienne se viandait, c'était épouvantable. Et donc, un État ne peut pas faire faillite, mais par contre, son absence de paiement peut déclencher des crises économiques absolument gigantesques.
Et alors, à ce moment-là, on arrive progressivement vers l'idée qu'il va être nécessaire de créer une banque centrale qui serait un petit peu le prêteur en dernier ressort.
Voilà.
Ce que j'ai pas réussi à comprendre en revanche, parce qu'il l'explique pas, c'est comment cette banque centrale trouve à se financer, parce qu'elle est créée.
C'était là où était toute l'astuce, c'est que la Banque centrale d'Angleterre, par exemple, le système fonctionnait avec l'idée qu'une livre sterling, si vous la présentiez à la banque centrale, vous pouviez le transformer en l'équivalent d'or. C'est-à-dire qu'il y avait une immédiate convertibilité des billets.
Ce qui donne la
monnaie. Et donc ce qui se passait, c'est qu'à ce moment-là, tu avais... ce qui était très grave, c'est quand on se disait « telle banque où j'ai mes dépôts ne peut pas me rembourser, ne peut pas me convertir en or, donc je vais perdre mon fric ». Et il y avait ce qu'on appelait un run sur la banque, c'est-à-dire que c'est ce qui faisait sauter les banques, et puis à ce moment-là, et ce que faisait la banque centrale, c'est qu'elle avait un gros stock d'or, et qu'elle le mettait à la disposition de la banque qui était attaquée.
Oui, mais qui lui a donné le gros stock d'or à l'origine de la banque centrale?
En général, c'était le commerce extérieur. C'est pour ça que tous ces pays étaient, comment on appelait ça, mercantilistes.
Oui, bien sûr.
La stabilité de ton système bancaire dépendait du stock d'or que tu avais à la banque centrale. Et le stock d'or à la banque centrale, il dépendait beaucoup des excédents commerciaux que tu avais avec le reste du monde. Donc c'est pour ça que tout le monde était mercantiliste et que ça empêchait le développement parce que tout le monde voulait avoir un excédent des comptes courants, ce qui n'est pas possible. Quoi.
Non, au même moment, non.
Normalement, non.
Mais quand il y a un stock d'or défini, c'est...
Et ce qui s'est passé avec les États-Unis, c'est qu'ils ont dit en 1945... nous, on n'aura pas besoin de présenter l'or.
Oui,
parce que c'est nous. Parce qu'on est les plus gros bateaux, parce qu'on va vous mettre sur la gueule et tout. Donc ça marchait très bien, mais maintenant ça marche plus. Donc on est en train de revenir à un moment. Comment va-t-on...
D'où Bitcoin pour revenir au début.
D'où Bitcoin, c'est tout à fait ça. Donc on voit bien que les besoins sont toujours les mêmes. Mais que...
Ah oui, les fonctionnements sont toujours les mêmes. C'est presque un triangle amoureux.
Mais c'est rien de nouveau. C'est-à-dire qu'on est toujours... Bon, je me développe, je prends donc des créances sur un autre pays. Et comment je me garantis que ces créances, il va me les payer? Eh ben, c'est la faillite des deux tiers, c'est l'écroulement des monnaies, c'est...
Et là, si tu veux, c'était au moment, cette idée de la banque centrale, c'est Guillaume d'Orange quand il s'empare du trône d'Angleterre au détriment de son beau-frère Jacques II. Et au bout de 5 ans, il se dit, bon, ça va être la banqueroute. Ça va durer encore cette histoire parce qu'on va se mettre sur la gueule encore un moment. Ouais. Et je peux pas me permettre de faire banqueroute, ça va faire grimper mes taux d'intérêt. Et à ce moment-là, il se dit, il me faut une banque, il me faut un dernier escompteur, quelque chose qui soit un peu cossu.
La première des banques centrales, je crois, en Europe, si mes souvenirs sont exacts, ça a été la Suède.
Ah, c'est possible.
C'était la Suède qui était la première des banques centrales, qui était la grande puissance du Nord. Et leur système était un peu curieux, si mes souvenirs sont exacts, ça remonte à loin. mais il était fondé plutôt sur le cuivre. C'est-à-dire que c'était le cuivre, c'était vraiment le métal absolument nécessaire à toute industrie à l'époque, donc ça avait une très grande valeur. Donc, mais c'est la première des banques centrales, ça a été la Rizbank.
Alors, après, il y a eu Turgot qui, lui, s'est dit, on va faire une caisse d'escompte, c'était en 1776, qui sera là, non pas pour financer l'État, mais pour refinancer ceux qui ont financé l'État. Alors ça, c'est intéressant parce que
oui,
ça veut dire que...
Oui.
Oui, mais ça veut dire que c'est deux conceptions différentes de ce que devrait être une banque centrale. Est-ce qu'une banque centrale est là pour prêter à l'État ou est-ce qu'elle est là pour permettre à ceux qui vont financer l'État de pas se retrouver marron?
Exactement. Donc ça, c'était.
Et ça, ça a évolué dans le temps, et on a eu même.
Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la banque centrale s'arroge des pouvoirs de contrôle sur les banques commerciales, en disant oui. Je vais vérifier avant, puisque je vais vous refinancer, je vais. Donc ça devient un outil de contrôle.
Il y a une sorte de subrogation, effectivement, et de.
C'est-à-dire que les banques à ce moment-là deviennent pas les sujets, doivent être contrôlés par la banque centrale. Il y a des tas de gens qui disent les deux fonctions devraient être séparées. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir quelqu'un qui aide au refinancement de ceux qui financent l'État, et puis la Banque centrale, dont le rôle, c'est le commerce extérieur, etc. Donc il n'y a pas de raison qu'elle soit sous le même toit.
C'est important, et la Banque de France, pendant très longtemps, escomptait les effets de commerce.
Bien sûr.
Et permettait ainsi d'avoir une meilleure vélocité, quelque part, de la monnaie.
Et surtout, ça permettait de liquéfier les banques commerciales qui étaient...
Sur les traites, et de permettre à l'économie d'être liquide. Voilà. Et on a perdu ça avec la BCE, ce qui est fort dommage pour les territoires.
Et alors, du coup, ce qui se passe à ce moment-là, et on l'a très bien vu, c'est que tout l'effort de l'inspection des finances en France, c'était, il y avait des banques commerciales, la Banque Courtois, partout, et dont qui collectait l'épargne locale, qui restait locale. Mmh. Et puis, à partir, je crois, des années 80, fin des années 80, avec cette âne de Trichet, on a fait acheter.
Trichetus Ignoramus.
Trichetus Ignoramus, l'économie. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exiger que ces banques soient rachetées par les grosses banques, ben ça a été fait, et que toute l'épargne remonte à Paris. C'est-à-dire que c'est de là d'où vient le dessèchement de la province française, c'est qu'il n'y a plus la Banque Courtois qui finançait le promoteur local, etc. Il faut demander la permission à Paris, qui ne la donne jamais, parce que...
Ça met dessus, c'est comment ça se passe. C'est pareil pour nous, dès que tu veux un papier, on te dit, ta banque locale te dit, et on est à Paris, nous en plus, il faut qu'on demande au siège, le siège... ça met 6 semaines pour avoir une réponse. Ensuite, tu reposes une question, ça remonte au siège, ça n'en finit pas.
Et surtout, il n'y a pas de connaissance entre les gens, parce que la Banque Courtois à Toulouse, etc., les locales, les types locaux, les agences locales, les jouent au golf ou au tennis avec le boucher, avec tout ça. Donc, ils savaient les besoins et ils prêtaient ce que disait J.P. Morgan, qui a été un des plus grands banquiers de l'histoire. Il disait, entre un bon bilan et un homme en qui j'ai confiance, je choisirai toujours l'homme en qui j'ai confiance. C'est-à-dire que dire que la banque, c'est pas simplement de regarder des chiffres, c'est de voir le mec. Et donc, on a déshumanisé la banque, on a désertifié en faisant remonter toute l'épargne à Paris pour financer ce foutu déficit budgétaire.
Et alors, donc, cette opposition entre les deux conceptions de banque, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit... protéger quelque part l'épargnant qui a prêté, où est-ce qu'on doit arriver ?
L'épargnant, la question, c'est la banque.
Oui, mais alors, attends, parce que ce qui s'est passé en 2010, quand Athènes et Francfort ont commencé une nouvelle histoire, c'est qu'à ce moment-là, la BCE s'est arrogée le droit de se dire « moi, je vais venir aussi une vision de banque centrale en prêteur en dernier ressort ».
Aux États.
Aux États.
Ce qui était interdit
par
les traités.
Voilà.
Et donc c'est pour ça que les gens me disent vous êtes trompé sur l'euro. Je leur dis je me suis pas trompé.
Ça a été le whatever it takes de Draghi.
Ça a été le whatever it takes de Draghi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, ils ont changé les règles du jeu. Ils ont permis, alors que le traité avait formellement interdit la planche à billets, aujourd'hui, je crois que la masse monétaire en Europe a été multipliée par 5 depuis 2000. Et la croissance a été de 25%. C'est-à-dire que tu t'imagines la création de fausses valeurs qui a eu lieu à ce moment-là, qui traînent dans le système.
Et c'est exactement, c'est le redit dans le livre, ce qui a entraîné une augmentation du prix des actifs, dont la bulle immobilière est probablement la traduction la plus manifeste.
Oui.
Et ce que les économistes appellent l'équivalence ricardienne.
Voilà.
Et donc on se retrouve aujourd'hui, et tu en parles souvent, avec un immobilier qui est complètement déconnecté des réalités de terrain, puisque c'est injecté... par défaut, puisqu'on a créé ces bulles immobilières avec des taux bas. Et aujourd'hui, un jeune couple qui travaille à Paris avec des salaires qui sont les salaires français ne peut pas trouver à acheter.
Alors qu'ils ont deux salaires. Moi, quand j'étais jeune, il y a 55 ans, quand je suis arrivé avec ta mère à Paris, qui était dans un berceau, là, Avec mon salaire, je me suis payé un appartement qui était rue Vernet dans le 17e. C'était pas grandiose, mais enfin, c'était bien, quoi. J'étais tout seul, et en plus, c'était mon premier salaire. Donc, je gagnais pas des 100 et des 1000, quoi. Donc, il y a eu une prise. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, j'aime bien Jean-Marc Daniel parce qu'il fait du très bon boulot sur historiquement et tout, et ses idées sont claires. Mais ce que je dis aux gens, c'est que, finalement, la monnaie, c'est un bien commun. Et il faut qu'elle soit ni nationalisée, ni privatisée. Et il faut trouver des systèmes où on empêche. Parce que la crise de 2008-2009, c'était une tentative de privatiser la monnaie. Donc, ça pétait dans les gueules. Et la crise qu'on est en train d'avoir et qui traîne depuis 2012-2013, c'est une tentative de nationaliser la monnaie au profit des États. Et les deux sont mortels. Et c'est pas du tout la même crise, tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout pareil. Donc là, on a oscillé d'un désastre à un autre.
Alors, il revient sur la monnaie dans la leçon numéro 7, et donc il revient sur ce que tu dis toujours, quelle est la fonction de la monnaie, permettre l'échange, fixer un prix et se conserver dans le temps. Et il revient aussi donc sur ce qui touche la monnaie, l'inflation et comment tourner autour. Et aussi une autre leçon que j'ai trouvée. Bon, il revient sur les théories quantitatives, chose qu'on a souvent fait, sur pourquoi bloquer les prix n'est pas une solution au fait de se défaire de l'inflation. Et il reprend par le menu tous les exemples qui ont été faits sous la Convention.
Il a commencé avec Dioclétien aussi, je crois, en
300. Les blocages des salaires, ce qui avait été fait en Allemagne.
Le minimum, avant
la guerre. Et c'est intéressant parce que ce sont des choses aujourd'hui, avec les crétins qui nous gouvernent et leurs alliés, qui reviennent au menu, et on entend parler de blocage de loyers, ainsi de suite.
A bloqué les loyers à Paris, quelque part.
Bien sûr, partout et toujours, un blocage des prix entraîne toujours et partout, historiquement, une pénurie. Donc, je ne vois pas pourquoi ils auraient la science infuse, alors qu'en pratique, on a toujours vu que des blocages des prix entraînaient partout et toujours des pénuries.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça entraîne des pénuries, mais ça crée des enrichissements sans cause. C'est-à-dire, j'ai très bien vu à New York, où ils ont bloqué les loyers en 45. Pendant, je ne sais pas, il y en a toujours qui sont toujours bloqués, d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que donc les gars qui étaient dans les loyers, dans les appartements à ce moment-là, tant qu'ils n'en allaient pas de l'appartement, ils pouvaient le louer, par exemple.
Oui, bien sûr.
Et donc, ils le louaient au prix du marché, parce qu'on avait bloqué leur loyer à un prix très inférieur. Donc, ils s'étaient fait un capital au détriment du propriétaire légitime. C'était une atteinte directe au droit de propriété. Et donc, l'inflation, le blocage des prix, ça crée des décalages, ça crée des rentes indues, et qui mettent tout le monde foudrage. Mais on y est en plein dedans, quoi.
Oui, et donc on a eu ça en Allemagne en 1923. En 1923, le salaire d'un ouvrier qualifié a été multiplié par 500 par rapport à 1913, mais le coût de la vie lui avait été multiplié par 1100.
Ben voilà, c'est un petit peu le...
En novembre à Berlin, les prix doublent toutes les 50 heures.
Ben voilà, c'est ça.
Dans ce phénomène d'hyperinflation
d'entre-deux-guerres. D'hyperinflation d'entre-deux-guerres. Et ça a liquidé la dette, ça a liquidé la classe moyenne, ça a liquidé toutes les retraites.
Ça a amené un dictateur au pouvoir.
Et à ce moment-là, la classe moyenne disparaissant, les gens ne comprennent pas pourquoi... D'abord, ils ont été ruinés. Donc, ils cherchent des...
Il y a tout un tas de faux riches, de nouveaux riches qui apparaissent.
Les gars qui avaient emprunté de l'argent pour acheter l'appartement. Tout ça est extraordinairement malsain et destructeur de démocratie. C'est-à-dire que dans ces cas-là, ça devient un régime dont les gens perçoivent à juste titre qu'il est géré par des pillards. Et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec la France aujourd'hui, où on ne peut pas s'empêcher de penser que notre pays a été gouverné par des gens qui cherchaient à piller et au plus haut niveau de l'État, la richesse qui avait été créée par les générations précédentes.
Oui, ils y sont arrivés avec un certain doigté, je dois dire.
Oui. Donc, encore une fois, j'aime beaucoup Jean-Marc Daniel, je le connais un peu. Je crois que c'était un camarade de promotion à Polytechnique de mon cousin Pierre Scheffler. J'ai dû déjeuner une fois ou deux avec lui. Il a un très bon appétit, d'ailleurs, ça se voit.
Il est
peu grassouillé. Mais c'est un livre que vous pouvez acheter parce que je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais ce n'est pas la question. C'est que c'est un esprit honnête.
Oui. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Donc voilà, je voulais vous le chroniquer un petit peu. J'apprends toujours des choses agréables. C'est plein de petites anecdotes historiques et sur la partie quantitative de la monnaie, sur l'analyse de l'inflation. Enfin, c'est que des choses. Comme toi, il citait Irving Fisher aussi sur le fait que l'inflation était une façon de spolier le travailleur, le peuple,
le petit.
Et qu'il y avait un effet profondément injuste. On pourrait trouver, effectivement, et je le pense, que Jean-Marc Daniels est un libéral de la tendance John Rawls, c'est-à-dire qu'il est peut-être moins libertarien que nous ne le sommes, dans la mesure, moins minarchiste que nous ne le sommes, mais il demeure un libéral,
bon esprit.
Un bon esprit, voilà.
Moi, je l'aime bien.
Voilà, donc je vous le conseille si vous avez envie de lire quelque chose pour...
C'est un bon bouquin à avoir dans une bibliothèque quand vous posez des questions, vous savez, vous dites, bon, ben alors qu'est-ce qui s'est passé, la faillite des deux tiers, c'était et tout, donc vous vous posez des questions historiques, ben c'est bien.
Voilà.
C'est sérieusement fait.
Donc on a fait un petit tour d'horizon sur ce qui s'est passé en 2024 et les prospects pour 2025 et sur le petit livre sur la dette, l'inflation, la transition énergétique et le travail. Je pense que la semaine prochaine on ouvrira possiblement une émission de questions à voir, sauf ceux qui nous suivent à l'Université de l'Épargne, vous aurez donc l'émission que Charles va préparer sur...
Sur le rebalancement, reprendre un petit peu de ce qu'on a gagné sur l'or pour le mettre dans des trucs...
Voilà, donc on vous prépare ça pour jeudi, pour ceux qui sont avec nous. Et en attendant, on vous dit merci encore de nous avoir suivis, mettez des pouces, parlez-en à vos amis, et lui, il s'est déjà barré, parce que le DAF...
Je sais pas comment il le sait.
Je pense que c'est mon ton de voix, dois prendre mon ton de voix, il sait que c'est la fin.
C'est la fin, il s'est barré.
Et voilà, c'est hallucinant, hein, comme il sait à la seconde près, quoi. C'est chiant, c'est hallucinant. Voilà, on vous dit merci pour tout et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année. À très vite.
À bientôt.